Cette toux, ça doit être la toux que... En tout cas, je continue. Bien, merci. Im netzachot mutab, s'il a vaincu, tant mieux. Veim lav, et sinon, iskor lo yom amita, qui se rappelle du jour de sa mort. Comment on peut se rappeler du jour de sa mort? Iskor lo yom amita, qui se rappelle pour lui qu'il y a un jour de la mort. Alors commence par là. C'est-à-dire, si on cherche les forces qui nous permettent de résoudre le problème moral, faire triompher l'instinct du bien sur l'instinct du mal, pourquoi j'ai besoin de toutes ces étapes? J'ai quand même me rappeler, avoir conscience que je suis mortel, et puis j'aurais peur de la mort, ou de ce qu'il y a après, et puis je me conduirais bien. Pourquoi j'ai besoin de passer par un verset aussi compliqué, des étapes aussi compliquées? Vous avez compris la difficulté? Bon, alors, en réalité, ici, la Gemara fait allusion à quatre types d'énergie ou de force qui sont nécessaires pour que le problème moral soit résolu. C'est la bonne volonté, la connaissance, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, l'unité de la transcendance de Dieu sur la dualité bien et mal, et ma destinée personnelle. Je vais expliquer tout ça. Ces quatre forces sont nécessaires pour me donner la force de faire triompher le bien sur le mal. Si ça n'a pas réussi, dans l'ordre, quelle force a manqué? Alors, si ça n'a pas réussi, dans l'ordre, ce qui a manqué, le facteur important, dans l'ordre des facteurs, dans l'ordre des vertus, si vous voulez, c'est la bonne volonté. Et par conséquent, c'est la première qu'il faut mettre en évidence. Si malgré que j'ai eu la bonne volonté, il y a quand même échec, c'est qu'il a manqué quoi? La connaissance. Vous voyez comment est le raisonnement, okay? Et alors, de quoi il s'agit? Très souvent, une conscience échoue dans le problème moral, pas par manque de bonne volonté, mais parce qu'on ne sait pas comment décider. On voudrait bien décider le bien, mais on ne sait pas où est le bien. Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est en haut? Est-ce qu'il est enfin, vous comprenez, en telle voie possible. La difficulté du problème moral, ce n'est pas tellement de choisir entre le bien et le mal. Lorsque je vois avec évidence où est le bien et où est le mal, la bonne volonté, c'est de choisir évidemment le bien que je vois avec évidence. La difficulté du problème moral, c'est ce qu'on appelle le cas de conscience. C'est pas le choix entre le bien et le mal, c'est le choix entre deux biens différents et incompatibles. Et c'est ce qu'on appelle le cas de conscience. Est-ce que c'est clair? Et par conséquent, pour pouvoir résoudre les cas de conscience, il faut une sagesse qui s'appelle la casuistique étymologiquement, l'étude des cas. Et ce mot est devenu très péjoratif en Occident, mais tout ce Sanaour, c'est une casuistique, ça veut dire l'étude des cas de conscience. Lorsque j'ai deux devoirs en compétition, lequel il faut choisir? Vous voyez que c'est le drame de la Knesset. C'est un dialogue de sourds, parce que chacun parle d'une chose différente et n'arrive pas à comprendre qu'il faut trouver la solution qui résout les deux nécessités à la fois. Je ne sais pas si c'est clair celui-là. Oui, je pense que c'est suffisamment clair. Alors effectivement, le drame de l'homme de bonne volonté, c'est quand il lui manque la connaissance. Alors par conséquent, si malgré la bonne volonté, il y a eu échec, alors de quoi il faut s'occuper? Il faut s'occuper, c'est qu'on n'a pas appris suffisamment de Torah. C'est clair? Toi, c'est moi. Et voilà, là, ça devient difficile. On a appris la Torah. On s'est occupé de Torah. Et s'occuper de Torah, pour ceux qui font du Talmud, le savent, c'est savoir distinguer entre le bien et le mal. Entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? C'est ça la science de cette casuistique dont je vous parle. Et malgré ça, et Dafka, sa connaissance de la Torah le mène au renoncement à l'effort moral. Qui pourrait expliquer ça? Le remède qu'on propose, donc la force qui aura manqué, c'est ce qui est indiqué par le Kalchemar, savoir que Dieu est un. Alors je vais vous le dire très rapidement, vous me direz suffisamment clair. J'aurais aimé que vous arriviez à le dire par vous-même, mais ça prend trop de temps. C'est ceci. Le mal et le bien sont tellement différents que l'étude de la Torah, qui montre avec évidence que dans la réalité, il y a deux côtés incompatibles, que ça renvoie au Shter et Shuyot. Combien y a-t-il d'absolus qui gouvernent le monde? Au minimum deux. Parce que le mal et le bien n'ont rien à voir. C'est tellement différent le jour et la nuit qu'au moment du crépuscule, je me demande combien y a-t-il de Dieu. Et de deux manières, le soir et le matin, c'est pas le même crépuscule. Tout ça est étudié dans la Kabbalah surtout, c'est que Dafka, le fait d'étudier la Torah sans dire le Kriyat Shema, ça mène à l'échec de la bonne volonté et à travers même la connaissance. Et d'Afka, ceux qui ont plus de connaissance, sinon pas cette foi de l'unité de Dieu au-delà du bien et du mal, comme dirait Nietzsche, mais dans un tout autre sens, eh bien, échoue. Est-ce que c'est clair? Vous voyez les différences. Alors, premièrement, la force de la bonne volonté. Deuxièmement, la connaissance. Troisièmement, et je le dis en français, donc de façon très, très, très évasive, la foi dans l'unité de Dieu, qui est la foi monothéiste, c'est la foi la plus invraisemblable à la raison humaine. Tous les philosophes qui vous raconteront que le monothéisme, c'est la foi la plus rationnelle, ne savent pas de quoi ils parlent. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire, oui, ils sont abstraits, enfin, je perds mon français, mais je veux dire, ils sont abstraits, c'est pas le mot exact. Vous savez, quelqu'un qui est enfermé dans son cabinet, dans sa bibliothèque, et puis dans son laboratoire d'idées, et puis qui ne se rend pas compte comment ça se passe dans la réalité. Comment on appelle ça en français? Hein? Déconnecté, oui, mais c'est trop général. Oui, il y a un mot qui manque, mais qui doit exister en français. Vous savez, c'est une très belle langue, le français. Elle a plein de gros mots, enfin de vrais mots. Donc, je reviens dessus. Là, vous voyez ce qui se passe. Il y a un danger de celui qui n'est pas capable de bonne volonté, mais volonté, pas velléité. Je voudrais bien. Okay? Non, je veux, ça c'est autre chose. Et puis, et donc, ça c'est le derechet, c'est l'étude, enfin l'étude, c'est l'exercice de la morale avant de s'occuper de la loi qui donne ce rogez sans hête dont on parle ici. Et puis, je suis en train de penser à un verset qui est très important, je dis juste entre parenthèses pour que ça soit enregistré pour ceux qui veulent l'étudier après. Lorsque Joseph a envoyé ses frères chez Jacob, alors le sergent du message, chez moi Joseph, je suis vivant, venez me rejoindre, il leur donne comme consigne, Al tirgezu badarech, ne vous mettez pas en colère sur le chemin. Et Rashi explique, Al titrasku medibre alacha, ne vous occupez pas d'alacha. C'est un mystère dans ce Rashi. Sur le chemin, alors qu'il y a écrit, Oblatecha badarech, il dit surtout, dans ce cas-là, ne vous occupez pas de Torah. Parce que, et je donne un commencement de réponse, parce que si vous étudiez le cas Joseph, au niveau de la halakha, vous allez encore le condamner à mort. Par contre, c'est clair? Alors je reviens au... c'est même plus grave que ça. Ça risque la division totale entre tous les frères à cause de ce cas-là. Mais surtout, cette chose-là que je vous demande de faire, ne l'étudiez pas au niveau halakha. Alter gezu badar. Bon. Alors je continue. On a vu déjà trois niveaux. Je répète, la bonne volonté, la connaissance, la foi. Vous voyez que dans l'ordre des valeurs, la foi est au-dessus de la connaissance. La connaissance ne mène pas forcément au monothéisme. Et surtout, la connaissance éthique, que le mal c'est pas le bien, que le bien c'est pas le mal, n'a jamais mené au monothéisme. Elle a toujours mené à l'athéisme. Regardez Spinoza. C'est pire que de l'athéisme d'ailleurs. Et l'œuvre majeure de Spinoza, c'est l'éthique. Et aucun commentateur, historien de la philosophie n'est jamais arrivé à résoudre l'énigme de Spinoza, qui est qu'il reprend les catégories de Descartes en affirmant, mais parce qu'il lui est d'origine juive, un acte de foi qui fait prendre pour une évidence de la raison que la pensée et l'étendue sont deux modalités de la même substance. Alors que pour Descartes, ce sont deux substances différentes, Descartes est dualiste. Bon, je dis ça pour ceux qui savent de quoi il s'agit, et je referme la parenthèse. Et c'est donc d'Afka, l'éthique, qui risque de mener à l'échec de la morale. Et d'ailleurs, dans le temps contemporain, observez bien, tous ceux qui parlent d'éthique sont en dehors de la morale. Est-ce que c'est clair ce que vous avez ? Surtout au niveau de l'éthique médicale. On s'est emparé d'un mot qui veut dire le contraire de ce qu'on fait sans mort, qu'il veut dire. L'éthique, c'est une philosophie d'une morale inapplicable. C'est la perception grecque du problème du bien et du mal. Je referme la parole. Et alors voilà, on a eu toutes ces forces-là. Et même on sait dire le Kretschmar, et surtout le Kretschmar de la nuit. Or ici, c'est pour les deux Kretschmar, mais le Kretschmar de la nuit. Et ça peut échouer. On dit Iskurlo Yoramita, qui se rappelle qu'il y a un jour de la mort, même pour lui. Regardez ce que dit Rashi, Iskurlo Yoramita. Chenemar Vedomu Sela. Attendez, je finis la Gemara, puisqu'il est dit, et soyez silencieux. Quel est le jour où on devient silencieux? C'est le jour de la mort. Alors, je crois que Rashi en parle, attendez que je vous le retrouve. Vedomu Sela, deuxième ligne de Rashi. Yom Dumia, le jour du silence. Hu Yom Hamavet, c'est le jour de la mort. Chez Hu Dumia Olamit, qui est un silence éternel. Enfin, jusqu'à la résurrection. Et là, je voudrais citer un enseignement sans l'expliquer trop. La Gemara enseigne, c'est beaucoup plus explicite dans la Kabbalah, mais la Gemara déjà enseigne. Il y a une seule différence entre un vivant et un mort. C'est que le mort ne parle pas. Mais pour tout le reste, il n'y a aucune différence. Et alors, c'est pourquoi c'est une grande vertu, lorsqu'on cite quelqu'un qui est mort, de le citer parce qu'on est Dovev Sifte Yeshenim, on fait murmurer les lèvres de ceux qui dorment. Je ne sais pas si vous connaissez cette enseignement. Dovev Sifte Yeshenim. Bon. Alors, je reviens au sujet. Ça veut dire quoi cela? Bien, je vais essayer de vous décrire la difficulté ici. Il y a la bonne volonté. Il y a la connaissance, il y a la foi que Dieu est un. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour ça? Au-delà du bien et du mal. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors la fin du verset dit non, attention, ça te concerne. Tu es en question. Il y aura le jour de ton jugement. C'est ta destinée qui est en jeu. Vous voyez donc les cinq niveaux. Je ne sais même pas comment formuler le cinquième en termes de culture générale. Premier, c'est la bonne volonté. Deuxième, la connaissance. Troisième, la foi. Aidez-moi à trouver un terme pour le quatrième niveau. Ça veut dire, ça te concerne, toi. Ne crois pas que tu vas déléguer à Dieu la solution de ce problème. Responsabilité. Mais plus que ça, responsabilité personnelle. Il y a une Gemara dans Kiddushin qui dit, on doit toujours se considérer comme étant, à chaque instant, à moitié méritant, à moitié déméritant. Et c'est à chaque instant un seul geste qui peut basculer dans le mérite, dans le démérite. C'est le même Gemara ajoute, et ça vaut pas seulement pour le tzaddik lui-même et sa destinée, ça vaut pour le monde entier. Ça veut dire que tel geste d'un tzaddik peut faire basculer pour le monde entier d'un côté ou de l'autre. Est-ce que j'ai ce droit, mais est-ce que vous arrivez à comprendre ça? J'ai remarqué que pour ceux qui sont déjà arrivés à l'âge de la maturité, je vais pas vous donner d'âge mental, mais il y a une première période de la vie où tout se passe comme si on est à l'abri de quelque chose. On ne pense pas au bilan à faire entre le mérite et le démérite. Et à un certain stade de l'expérience de la vie, on s'aperçoit qu'on est abrité de rien du tout et que chaque acte peut faire passer, peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et parfois, on ne se rend pas compte qu'un acte anodin peut avoir des conséquences en chaîne considérables qui n'ont aucun rapport avec l'acte lui-même et pour soi-même, en fin de compte pour l'entourage et en fin de compte pour le monde entier. Bon, ça c'est l'expérience de la sagesse qui le montre, qu'il y a une solidarité totale de tous les individus sur la planète et que en fin de compte, le sort du monde dépend de la décision de la volonté de chacun à chaque moment. C'est une Gemara dans Kiddushin. Bien. Alors là, on a employé un terme, Yasso Batora. Et ça, je vais arriver au verset que nous allons étudier sur un enseignement que je vérifie bien de Rabbi Shimon ben Lakish. Et on verra que ce n'est pas par association d'idées qu'on est passé du verset de Rabbi Shimon ben Lévi à l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish sur ce verset et à un autre enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish sur un mot du verset. Alors, disons d'abord le verset. Ve'omer Hashem el Moshe. Et Dieu dit à Moïse, Ale Elai Ahara. Je vous rappelle, c'est chapitre 24, verset 12. Kav Dalet Yudbet. Chapitre 24, verset 12. Et Dieu dit à Moïse, monte vers moi en direction de la montagne. Ça, je n'expliquerai pas les mots ici. Vehe Hesham, et soit là-bas. Rashi, Vehe Hesham, Vous avez Rachid sous les yeux ? Alva et Mio. Veillez-Cham et soit là-bas. Rachid explique. On n'avait pas besoin de se monter sur la montagne et soit là-bas. Parce que pour être là-bas, qu'il est monté. Donc c'est qu'il y a une précision qui nous est donnée. Soit là-bas le temps que je te transmettrai toute la Torah. Que j'ai à te transmettre pour Israël. Et on apprend par la suite qu'il s'agit de 40 jours. Donc Rachid explique. Et soit là-bas pendant 40 jours. Veillez-en Alecha et je te donnerai. Et l'ouchot aével, les tables de pierre, vea Torah et la Torah, vea mitzvah et la mitzvah, asher katafti les horotam, que j'ai écrit pour leur enseigner. Faites bien attention à la fin du verset, j'ai expliqué. Le sujet de les horotam, c'est pas Moïse. Et je donnerai les tables de pierre, la Torah et la mitzvah que j'ai écrit. Le sujet, c'est pas Dieu, que j'ai écrit pour leur enseigner. Et le sujet, c'est Moïse, pour que tu leur enseignes. Regardez, sous Asher Katafti, il y a Ma'arir Tavra, pour ceux qui connaissent les accents. C'est disjonctif. Atora ve'a mitzvah Asher Katafti, l'Erotam. Il peut y avoir les deux lectures d'ailleurs, mais d'après les commentaires que j'ai étudiés, le sujet, c'est l'Erotam a fait que tu leur enseignes, et non pas que j'ai écrit pour leur enseigner. Bien. Et alors, c'est là que nous allons voir l'enseignement de la Gemara sur ce verset. Nous verrons qu'il porte. Je suis en pleine tout à tout, je peux comment dire ça. Qui porte le mot de Torah. Je n'aurai pas le temps d'arriver au deuxième point, on étudiera un autre. Regardez ce que dit Rabbi Shimon ben Lakish. ואמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, זיית, מה דכתיב, כה סיניפי, פורקוה סדקרי, ותנה לך את הלוחות האבן, ושתדון ראה לטאב דה פייר, והתורה אל התורה, והמצווה אל המצווה, אשר כתבתי לאור אותם, כשה הקרית פולר הנסניה, אלא אני אספיק, לוחות לטאב, אלו עשרת הדיברות, סלדי קומנמה. תורה זה מקרא, לתורה c'est le Mikra. Qu'est-ce que c'est le Mikra? Regardez Rachid. Zemikra, troisième ligne. Zemikra, Chumash, chez Mitzvah, l'Ikrova Torah. Le Chumash, c'est-à-dire le texte de la Torah, parce que c'est une Mitzvah de lire la Torah. On ne comprend pas ce Rachid-là. C'est-à-dire c'est une Mitzvah de lire la Torah. Pour expliquer Mikra. Je continue. La mitzvah, et la mitzvah, c'est la Mishnah. Or, jusque-là, on croyait que la mitzvah, c'est la Torah. Que la Torah, c'est la mitzvah. Non, la Gemara vient nous dire, la Torah, c'est le Mikra, la mitzvah, c'est la Mishnah. Bon. Asher Ketavti, que j'ai écrit, Elouni ve'imuktuvim, c'est les textes des prophètes et des hagiographes dans le Mikra. Lehorotam, pour leur enseigner, la Gemara, c'est la Gemara, le Talmud. Mais la Mette, ça nous apprend, chez Koulam, dites-nous les Moshé Bissinaï, que tous ont été donnés à Moïse à partir du Sinaï. Alors voilà donc le sujet qui apparaît là. Tout l'ensemble de la Torah, c'est Torah Messinaï. Vous l'étudierez vous-même, parce que j'ai plus le temps, dans le Rashi sur le premier verset de notre parasha. Je vous dis très rapidement. Ve'elé Amishpati Mashat Pasim Lifnehem. Et voici les principes de jugement, la jurisprudence, modèle de constitution que tu placeras devant eux. Rashi explique, puisqu'il a écrit « Ve'elé », ça relie ce qu'on va lire à ce qui a précédé. S'il avait écrit « Elé », ça sépare ce qui a précédé de ce qui va suivre. « Elé », voici les préceptes, c'est ce qui va venir. « Ve'elé », et voici les préceptes. Les préceptes qui vont venir sont de même nature que les préceptes précédents. Et Rashi cite la Mechita et un autre Midrash, le Midrash Rabba, que « Elé », ça disqualifie ce qui s'est passé avant, tandis que Ve'elé, ça ajoute à ce qui s'est passé avant. Et il donne comme exemple, la première fois qu'il y a Elé dans le récit de la Torah, Elé Toldot HaShamayim Va'aretz, c'est après les six jours du commencement. Et voici l'histoire du ciel et de la terre, et voici, non, c'est-à-dire, voici Elé Toldot HaShamayim Va'aretz. Ça renvoie le tout à haut du commencement, qui est en cours d'organisation, à qui est remplacé par l'histoire du monde déjà organisée. Le passage entre Maaseh Bereshit et Toldot HaShamayim Va'aretz Be'ibareham que vous avez au verset 4 du chapitre 2. Et alors, là, il y a un problème très important. Énormément de gens accordent respect aux 10 principes des 10 commandements. Et puis, les autres niveaux de la Torah, bon, c'est un autre niveau. Alors là, cette Gemara remet en évidence que c'est tout un ensemble, on le lit dans le verset. Et je te donnerai les tables de pierre que j'ai écrites, et la Torah et la Mitzvah que j'ai écrites pour leur enseigner. Toutes ces définitions supplémentaires, c'est de trop, puisqu'il s'agit des tables de pierre. Ça veut dire que, en même temps que les 10 commandements écrits sur les tables de pierre, pendant ces 40 jours, Moïse s'est initié à l'ensemble de la Torah. Et c'est mis au point, donc, à tous les niveaux de la Torah. Et je reviens au sujet essentiel, en relisant ces différents niveaux. Chota Eben, les tables de pierre, c'est les 10 commandements. La Torah, c'est le Mikra. La Mitzvah, c'est la Mishnah. Asher Katavti, c'est le reste du Tanakh. Nevim Uktuvim. Les Horotam, c'est le Talmud. Je vous fais confiance que vous reprendrez le raisonnement très en détail. Okay? J'espère que vous avez déjà perçu la cohérence du raisonnement. Et alors, la question, du point de vue de la méthode de l'étude, c'est pourquoi la Gemara nous a cité ce deuxième enseignement de Rish Lakish après le premier. La réponse est très importante. C'est pour nous expliquer le sens du mot Torah dans la braïta précédente qui dit « Et s'il n'a pas réussi après la bonne volonté, qui s'occupe de Torah ?» Alors la Gemara veut dire, quand tu as dit « qui s'occupe de Torah, de quoi tu veux parler ?» Et bien on l'apprend. De l'enseignement de ce même Rav à propos de notre verset, où on voit que Torah doit avoir un autre sens que Mitzvah, puisqu'il y a et la Torah et la Mitzvah. C'est clair? Alors, c'est clair pour tout le monde. Alors, je vais expliquer qu'est-ce que c'est Mikra. Mikra, c'est le texte de la Torah. Alors, quand je parle français, le texte de la Torah. Il y a un récit de la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Zot HaBaracha, un récit qui est le Mikra, le texte de ce récit, où ce récit nous raconte que Dieu a donné à Moïse telle ou telle mitzvah. Mais ce telle ou telle mitzvah que Dieu a donné à Moïse, qu'on apprend après le récit, on ne peut pas l'étudier dans le récit. Il faut l'étudier dans le Talmud. Je vous donne un exemple très simple que j'ai l'habitude de citer quand on étudie ces sujets. Il y a un verset qui est une mitzvah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est traduit comme ça. Et bien dans la lecture de la Torah, j'apprends que Dieu a dit à Moïse, transmet aux enfants d'Israël une mitzvah importante, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comment ça se réalise, ça? De ce récit, je ne sais pas comment on aime son prochain comme soi-même. Et où je vais apprendre comment on aime son prochain comme soi-même? Il faut que je l'apprenne dans le Talmud, dans la casuistique, et dans chaque cas, comment ça s'applique. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, les versets qui nous donnent les mitzvot font partie du Mikra. Les mitzvot elles-mêmes, c'est dans la Mishnah qu'on les étudie. Est-ce que c'est clair? Or, cette mitzvah dont parle Rashi, chez mitzvah likro batorah, c'est une mitzvah de lire la Torah, c'est pas la mitzvah de l'étude de la Torah. La mitzvah de Talmud Torah, c'est dans le Talmud. La mitzvah de lire la Torah, elle s'est perdue avec le temps. Alors, les gens qui lisent, mais est-ce qu'ils lisent ce qu'ils lisent? Très très récemment, je parle surtout dans le temps contemporain, c'est le Maharal de Prague qui a réinstitué l'étude du Mikra. Ça s'était perdu avec le temps. Je parle surtout dans le judaïsme européen. Chez les Sfardines, c'était différent. Je vous fais une petite parenthèse pour vous montrer qu'un jour, il faudra étudier la différence de ces problèmes chez les Ashkenazim et les Sfardines. Et encore, il ne faut pas généraliser, parce qu'il y a 70 genres de yeshivot différentes chez les Ashkenazim et 90 chez les Sfardines. Mais enfin, ce sont deux mondes différents. Je vous fais une petite parenthèse. Le phénomène yeshiva dans le monde ashkenaz est très récent. Dans le monde sfarad, on l'appelait la metifta. C'est le mot araméen pour dire yeshiva. Or, la metifta, c'était l'école des élèves du Dayan pour se former pour être Dayan. À part ça, il y avait le Talmud Torah. Or, dans le monde ashkenazi, des ashkenazim, dans les derniers siècles, il y a eu un pisoussoukhloussim, comme on dit ça en français, un poussé démographique énorme. Et les rabbins se sont trouvés dans le monde ashkenaz devant un problème d'école juive. Ils ont transformé la yeshiva en école pour juifs. Alors que la yeshiva, c'était premièrement l'école pour les dayanim. Je ne sais pas si c'est clair. Ça vous montre d'ailleurs la différence de ces deux judaïsmes. les Ashkenazim fonctionnent comme juifs comme s'ils étaient les Dayanim. Alors chez les Sfaradim, le Talmud Torah, la Mitzvah, c'est différent. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ça vient d'un phénomène socio-historique très important. Ce n'est que dans les siècles récents qu'on s'aperçoit, il y a des raisons d'ailleurs historiques très très connues. Une d'entre elles, c'est le fait que la civilisation a passé en Europe. Et donc le monde juif d'Europe s'est développé beaucoup plus que le monde juif de l'islam qui est rentré en sommeil. Je parle de l'islam. Et puis, le fait qu'il y a eu, dans cette époque, énormément de maladies et d'épidémies d'Afka dans les communautés sfarades qui étaient dans le monde de l'islam. Donc il y a eu, jusqu'à il y a 300 ans, il y avait plus de sfaradim que d'ashkenazim. Depuis 3 siècles à peu près, ça s'inverse de manière incommensurable. Il y a 10 fois plus d'ashkenazim que de sfaradim dans le monde. En Israël, il y a à peu près la moitié, mais dans le monde, il y a 10 fois plus d'ashkenazim que de sfaradim, ce qui explique la différence de genre de communauté de ces deux mondes. Et en particulier, l'école juive. Réfléchissez bien à ça. C'est l'école pour juges qui est la méthode de formation des juges qui est devenue le Talmud Torah. Alors que le Talmud Torah, c'est l'étude de la Torah, c'est-à-dire du Mikra. Et puis que l'étude de la Mitzvah, eh bien, se fait dans la Gemara pour former les Dayanim. Les Dayanim qui savent lire et interpréter le Shulchan Aruch pour les Juifs, qui doivent apprendre le Shulchan Aruch. Je ne sais pas si c'est clair là, la différence. Et vous comprendrez par vous-même les implications de différence de ces deux mondes. Et aujourd'hui, dans le phénomène des yeshivot, il est bien évident qu'il y a une éclipse totale de la Shita Sfaradite et que c'est la Shita Ashkenazite qui s'est, il y a un autre mot plus gentil quand même, qui n'est pas... Qui c'est? Vous avez compris? Et il en résulte qu'il y a une mentalité du juif Haredi qui est comme s'il était un Dayan. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et préoccupé de problèmes de Dayanim, d'ailleurs. Et en général, ils n'ont pas lu la Mishnah du Pirkei Avot, Altiye Dan Yechidi. En tout cas, pour revenir au... Vous avez remarqué d'ailleurs que dans le monde haredi, l'éclatement de l'unité, c'est sur des problèmes de halakha, c'est des problèmes de juge. Et vous avez remarqué ça, okay. Tout le phénomène des sectes, c'est des sectes de jurisprudence différentes. Et ça induit finalement des types de juges différents. C'est encore plus compliqué que ça, mais j'espère que vous avez un peu compris la différence. Alors voilà donc, c'est le Maharal dans le monde Ashkenaz qui a réinstitué la Parashat HaShavuah. Ça commence par là. Okay. Et il dit lui-même, dans un des chapitres de quel livre Derech Chaim, que c'est en connaissant la yeshiva sfaradine Amsterdam qu'il s'est rendu compte qu'il fallait d'abord apprendre le Mikra et ensuite la Mishnah. Est-ce que c'est clair? Parce que dans le monde des yeshivot, il y a une blague des yeshivot elles-mêmes. Je me dis bien, c'est un peu poussé à la limite, mais il y a quelque chose derrière. Quand on demande à un bachot yeshiva où c'est écrit Bereshit Bara Elokim, il répond Brachot, chapitre 12. Parce qu'on cite le verset dans la Gemara, au point qu'il y a certains yeshivot où c'est considéré comme interdit, blasphématoire, d'étudier le Mikra. C'est déjà hérétique. Il faut étudier le Talmud, et lorsque le Talmud cite un verset, on sait que c'est un verset. Mais on n'étudie pas le verset. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est un peu poussé à la limite, mais enfin, il y a un peu de ça dans cette mentalité. Et alors, voilà, on revient à l'enseignement précédent. Ça veut nous éclairer ce que Rabbi Shimon ben Lakish avait dit en disant Yassou Batorah, lorsqu'il disait Yassou Batorah. C'est le deuxième Rabbi Shimon ben Lévi qui explique que ça veut dire Torah dans le premier Rabbi Shimon ben Lévi. C'est clair? Or, quel est notre problème? Il avait la bonne volonté, mais il n'avait pas la connaissance. Alors il a échoué. Eh bien, qu'il apprenne Torah, ça va l'aider. Et la première lecture, je vous donnais tout à l'heure, c'est quoi? La casuistique. Où est le bien, où est le mal? Dans le Shulchan Aruch. On s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça. Qu'il s'agit d'étudier le Mikra. Et c'est quelle différence? Je vous pose la question, vous allez m'aider à le formuler. Quelle différence entre ces deux mitzvot, la mitzvah du Talmud Torah en tant que j'étudie la loi, et ça, c'est dans le Talmud, et je voudrais être le plus clair possible. La mitzvah du Talmud Torah, c'est la Gemara. Celui qui n'a pas étudié la Gemara, il ne sait pas qu'est-ce que c'est Talmud Torah. Il a beau faire des thèses de Dort Torah, j'avais un maître, c'est le cousin du rabbi de Lubavitch, un autre rabbi Schneerson. Les anciens de Paris, vous rappelez la rue de Paradis, il y avait à côté de la rue Dieu, il y a une petite yeshiva à Lubavitch, la première, juste après la guerre, vous vous rappelez pas de ça? Et c'est ce rabbi Schneerson qui enseignait là-bas. Et alors, il m'avait dit. La rue Dieu, oui. Alors, vous rappelez la rue Dieu? Eh bien, oui, on se retrouve. Mais regardez, c'est l'humour du langage. La rue Dieu, à côté de la rue de Paradis. il avait dit un jour, celui qui ne connaît pas la Kabbalah, ce n'est pas un homme. Mais celui qui ne connaît pas la Gemara, ce n'est pas un juif. Laquelle des deux choses est plus grave? Vous voyez le piège? Est-ce que c'est clair? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les kabbalistes sont talmudistes, mais pas tous les talmudistes sont kabbalistes. Et alors, bon, on n'arrivera jamais à la Kabbalah si on n'est pas passé par la Gemara. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est Talmud Torah. Et ceux qui font la Gemara savent que pour vraiment faire la Gemara, il faut faire ça 24 heures sur 24. Sinon, c'est une mitzvah d'un brave juif pieux qui est très important pour sa communauté, pour son peuple, et qui doit étudier un peu de Torah, comme ça, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans le Talmud Torah. Mais le Talmud Torah, vraiment, c'est Gemara 24 heures sur 24. Et c'est ça qu'on appelle les Ilouim. Et il y en a une dizaine par génération. En Israël, il y en a 40 000. Comme vous savez. Et alors, c'est des Gaonim, des prébendes budgétaires. En tout cas, pour revenir au... Vous avez remarqué les affiches dans les rues de Jérusalem? Chaque fois qu'on cite un rabbin, à Gaon, à Moufla, il n'y a rien que des Gaonim. Alors que Gaon, il y en a un tous les deux siècles. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, pour revenir au sujet, il faut bien comprendre ceci. C'est que d'autre part, nous dit Rashi, à part la mitzvah de Talmud Torah, yesh mitzvah likro ba Torah. C'est-à-dire de comprendre le texte de la Torah. Et qu'est-ce qu'on apprend dans le texte de la Torah qui n'est pas Mishnah, qui n'est pas Shulchan Aruch, n'est pas Gemara, c'est quoi? Et c'est ça qui va nous dire que ça veut dire Torah dans ce texte.
L'histoire.
L'histoire de qui? L'histoire, exact. L'histoire d'Israël et surtout l'histoire des Avot, l'histoire des pères d'Israël. La Torah, comme loi, est donnée aux Bnei Israël. Mais elle a une préface qui raconte l'identité des Avot et d'Israël. Et ceux qui n'ont pas étudié comment les Avot agissaient, où est le bien et le mal, ne sauront jamais où est le bien ou le mal, quelle que soit la quantité de Shulchan Aruch qu'ils ont dans la tête. La preuve, c'est que nous sommes interpellés par des questions, comment dire, goralites, erronées. Ne me dites pas crucial. Quand nous sommes interpellés par des questions, ben, goralites, hein. Hein? Ah bah. Ouf, d'où tu sens ça? Tu penses au goral du jeu de dés des Grecs, Aléa Jactaès.
Elle est décisive.
Décisive, oui. Un plein désarroi d'Afka de ceux qui connaissent le Shulchan Aruch. Mais parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Vous avez compris le sens des mots, okay? Est-ce que c'est clair? Ils ne savent pas comment Abraham, Isaac, Jacob, Moïse réagissent dans l'histoire de leur peuple. Ils savent comment on sépare le lait de la viande. C'est déjà pas mal. Et puis avec un scrupule extraordinaire, qui est respectable en soi. Je vais raconter un midrash, j'ai raconté une fois. Et vous savez qu'il y a le scrupule peut arriver jusqu'à... Ça ressemble, je vais dire ça un peu sous forme humoristique, que si une fourchette de lait a rencontré une cuillère de viande, ça risque de déclencher une déflagration atomique. Oui, jusque-là va le scrupule. Okay? Okay. Alors vous voyez, je suis en train de vous parler de choses extrêmement importantes. Okay? Lorsque Rish Lakish parle de la connaissance de la Torah qui est nécessaire pour résoudre le problème moral, il ne parle pas de la mitzvah, il parle du mikra. Et vous avez bien compris ça? Okay? Voilà, c'est ce que je voulais vous mettre en évidence. C'est cette connaissance-là qui a été en éclipse, lorsque il y a eu cette dominante de la chita de la yeshiva qui a pris le pas sur la chita du Talmud Torah. Vous avez compris un peu le problème. Alors ceci dit, il faut nuancer. Vous avez énormément autour de beaucoup de yeshivot des Talmud et Torah. Et vous avez énormément de rabbanim des yeshivot qui enseignent la Torah. La définition des catégories doit être très claire. Est-ce que c'est bien compris? Donc, eh bien, je vois qu'on est arrivé à 8 heures. Et alors donc, ça sera... Eh bien, je n'ai pas fini. J'ai plusieurs choses à vous dire. Donc, ça sera la prochaine fois. Ou une prochaine fois, je reprendrai, si je voulais étudier avec vous, sur le Narasé Benishma. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je voudrais dédier cette étude à la mémoire de Jean Vassal, qui vient de nous quitter. Et il est décédé à la sortie de Parashat Yitro, donc samedi soir dernier. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est cette coïncidence avec le personnage de Yitro, qui est le héros de la Parashat. Alors, en fait, comme vous savez, il était Ger Toshav, et par conséquent, il n'a pas pu être enterré dans un cimetière juif. D'ailleurs, ça va nous donner l'obligation de poser la question à la Rabbanout, de trouver une solution pour les guérim qui ne sont pas guéris de Tzedek. Vous comprenez la différence, nous ferons un Ayahir pour les Shloshim, un Limoud à sa mémoire. Vous serez prévenus à temps. Je peux vous dire déjà la date, c'est le 21 février. Mais vous serez prévenus à temps. Et d'autre part, je suis encore obligé de voyager. C'est indépendant de Jethro. Mais ça ressemble un peu. Et par conséquent, je ne serai pas là deux mercredis de suite. Mais les cours seront assurés et vous n'aurez pas à vous en plaindre. Par conséquent, les cours continuent parce que j'arriverai. C'est ça, oui. Parce que j'arriverai le 14 février, si Dieu veut. Et donc, le mercredi 15, je vous revois. Ceci dit, il y a cours mardi pour ceux qui suivent. Bien sûr, il y a cours ce dimanche. Pour ceux qui suivent le cours en hébreu dimanche, il y a cours mardi pour ceux qui suivent le cours en français du mardi matin. Et donc on se revoit pour la page de Chevoir dans 3 semaines.